Jeanne Bouet, Raymond Aubrac,
Edmond Michelet,
Joséphine Baker,
Marie-Madeleine Foucault.
Portrait de résistants, des podcasts écrits et réalisés par des élèves de terminale dans le cadre d'un cours d'EMC. Raymond Aubrac,
Joséphine Baker,
Alice Postelvini,
Lucie Aubrac.
Vous êtes sur Radio Camille, c'est l'heure du portrait de résistants. Bonjour à tous, c'est Paul et je suis avec ma fidèle partenaire Jeanne. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser ensemble aux résistants durant la Seconde Guerre mondiale. Notamment avec l'arrivée de la résistance et des grandes figures comme Jean Moulin ou encore Raymond Aubrac. Aujourd'hui, nous nous focaliserons sur un personnage mythique de la résistance, moins connu du grand public de par son sexe qui la sépare de ses autres compères. Nous parlerons bien évidemment de Lucie Aubrac. Puis nous évoquerons les différents événements et personnages qui ont marqué sa vie. Pour cela, j'ai à mes côtés Arnaud. Bonjour.
Bonjour à vous.
Vous êtes membre des Archives de France, ayant participé à la biographie de Lucie Aubrac.
C'est ça.
Paru dans le recueil des commémorations nationales en 2012. J'ai également Titouan. Bonjour.
Bonjour à vous.
Vous êtes historien spécialisé dans la résistance 39-45.
C'est exact.
Et enfin, pour nous insérer dans sa vie familiale, nous avons dans le studio une descendante de Lucie. Bonjour Lola.
Bonjour, enchantée.
Vous êtes donc la fille, la descendante de Lucie Aubrac, excusez-moi. Bienvenue à vous tous et merci d'avoir accepté à notre invitation.
De rien, c'est plaisir.
Très bien. Pour commencer, nous aimerions savoir qui est-elle et comment vit-elle au début de la guerre.
Lucie Aubrac était une résistante française lors de la Seconde Guerre mondiale, née en 1912 à Paris d'une famille de cultivateurs et morte en 2007. Durant toutes ses études, elle fréquente le Cercle international de jeunesse, une association pacifiste qui cultive la tolérance. Parallèlement à ses activités au Cercle, elle milite aux Jeunesses communistes, auxquelles elle adhère en 1932. Tout en militant, elle entreprend des études d'histoire et en 1938, elle est reçue à l'agrégation d'histoire, géographie. Lorsque la guerre éclate, donc en 1939, elle est en poste à Strasbourg.
Et... Ah, excusez-moi de vous couper, oui. Mais j'aimerais savoir comment Lucie Aubrac est finalement rentrée dans cette résistance.
Alors, vous savez, Arnaud vient de mentionner justement la jeunesse de Lucie. Et en fait, elle a toujours été de nature rebelle. Par exemple, à ses 17 ans, déjà, elle refusait, par exemple, le port de l'uniforme à l'internat. Elle n'a jamais hésité à montrer ses convictions. Et du coup, c'est naturellement que lorsque mon grand-père a été fait prisonnier de guerre par l'armée allemande et détenu à Strasbourg, qu'elle a commencé à résister, du coup, en trouvant le moyen de profiter d'une confusion générale pour le faire évader à la date du 20 juin 1940. Par la suite, après cette première série d'événements, s'engager devenait pour elle une nécessité. En effet, c'est par la rencontre d'Émile Astier. C'était donc un ami du professeur de philo du lycée dans lequel elle avait été mutée à Clermont-Ferrand. Et donc, c'est grâce à cette rencontre majeure qu'a été formé, mais je pense que Titouan vous en parlera mieux que moi, le premier noyau de résistance appelé la dernière colonne à l'automne 1940.
Justement, pouvez-vous nous en dire plus sur ce personnage d'Astier ?
Alors oui, je vais pouvoir vous éclaircir. Astier, avant la guerre, donc Émile Astier, il était journaliste. Il a été mobilisé pour la guerre, sauf que bon, bah, comme vous le savez, c'était une déroute très rapide. Du coup, dès le début du régime de Vichy, il se révolte et il cherche des gens qui pensent comme lui pour entamer une résistance, d'où la rencontre avec Lucie. Ils vont former donc alors la dernière colonne qui va devenir par la suite Libération Sud, l'un des grands mouvements de résistance de France. Ils formeront avec 7 autres groupes de résistance le CNR après la guerre. Petite anecdote, le journal Libération, il doit ses origines donc au groupe de résistance Libération Sud.
Titouan, pouvez-vous nous parler de ses actions durant la guerre en France plus particulièrement ?
Oui. Pendant plusieurs années, Lucie mène donc une vie dans l'anonymat. Elle distribue et colle des tracts principalement, mais se voit aussi confier des missions de sabotage. Elle fait évader des confrères résistants et elle a des missions de renseignement pour les troupes alliées, notamment en Angleterre. Elle se voit aussi confier une mission par Astier de liaison avec Libération Nord, qu'elle mène à bien en se rendant plusieurs fois à Paris. Des actions qui se compliquent en 1943 avec la création des milices qui vont venir assister à la Gestapo dans sa traque des résistants. Raymond Aubrac en fait les frais et se fait arrêter avec Jean Moulin le 21 juin 1943.
Quant à son évasion, pouvez-vous nous en dire plus sur les raisons pour lesquelles elle quitte la France ?
Comme Titouan l'a précisé, lors de la création de la milice en 1943, et accompagné de la Gestapo, il devient dangereux de servir pour la résistance. En conséquence, Lucie Aubrac arrête d'être professeur en 1943, après la deuxième évasion de son mari, Et devenue trop recherchée, elle rejoint un groupe de résistants, puis fuit à Londres en 1944.
Très bien. Nous aimerions savoir ce qu'elle fait en Angleterre.
Donc quelques jours après son atterrissage à Londres, Lucie accouche de sa toute première fille. D'ailleurs, cette première fille aura pour parrain De Gaulle. À Londres, elle est choisie pour représenter Libération Sud à l'Assemblée consultative créée par De Gaulle à Alger. Malheureusement, elle ne peut pas s'y rendre et reste à Londres et finalement intègre le comité exécutif de propagande à la direction de la France. Et prend même le micro de la BBC dès le 5 avril 1944 pour commenter l'arrivée de ministres communistes dans le CFLN, Comité français de libération nationale, créé par De Gaulle, pour remplacer le gouvernement dès l'arrivée des troupes françaises et alliées à Paris. À l'aise au micro, elle continue de prendre régulièrement la parole pendant des mois, donc même après le débarquement le 6 juin 1944, donc, car oui, la libération de la France ne se fait pas en claquement de doigts, donc elle continue à Londres de s'adresser aux Français, notamment aux femmes, c'est une grande féministe, vous pouvez me le confirmer, Lola?
Bien sûr.
Le 27 juillet 1944, elle se fait confier une mission de liaison en France, donc confiée par Astier. Cela signe son retour en France et le début d'une participation active à la reconstruction du pays.
Très intéressant. J'aimerais savoir comment s'est construit fondamentalement la mémoire de Lucie Aubrac. Dites-moi si vous pouvez nous répondre, ou peu importe. Hein.
Oui, je vais répondre à cette question. Lucie participe elle-même donc à la construction de la mémoire pour les résistants, car elle fait partie au titre de résistante de la commission chargée d'enquêter sur les événements survenus entre 1933 et 1945. Aujourd'hui, la mémoire de Lucie Aubrac est omniprésente en France. Rues, écoles, places, hôpitaux ou même encore une ligne de métro à Paris porte son nom en hommage de son dévouement pour la patrie. Il y a également une plaque commémorative dans la commune de Salornay-sur-Guy, commune de naissance et où elle repose actuellement. Le ministre des Armées sur leur site Chemin de mémoire y consacre un article sur sa vie. Et vous pouvez me le confirmer, Arnaud, mais c'est bien les archives qui ont fait récemment la biographie la plus complète de Lucie Aubrac.
Ouais, c'est exact. Ouais.
Donc on peut également retrouver des articles de mémoire, donc notamment dans des œuvres. Exemple d'œuvre, on a Le Boulevard des Hirondelles en 1992, adaptation du livre Ils partiront dans l'ivresse de Lucie, directement. On a également le film Aubrac, Lyon, 1943, de Claude Berry. Ils marchent relativement bien, toutes ces œuvres, et ils reçoivent tous l'approbation donc, de Lucie Aubrac et de Raymond Aubrac. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur la résistance, c'est sur la mémoire qui s'est construite autour d'elle.
Merci.
D'ailleurs, quant à l'après-guerre, pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet ?
Donc, elle a effectué énormément d'actions jusqu'à sa mort, mais je vais essayer de vous en citer le plus possible. Après la guerre, elle est active au sein du Mouvement de la Paix, organisation pacifiste cofondée par Raymond en février 1948. À partir de 1956, elle est associée aux travaux du Comité d'Histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Elle est également liquidatrice nationale de Libération Sud, ce qui consiste à reconnaître l'appartenance des différents membres au mouvement de façon qu'ils puissent faire des demandes de pension. Lucie fait valoir ses droits à la retraite et milite à la Ligue des Droits de l'Homme. Après une prestation dite brillante à l'émission de Bernard Pivot, apostrophe, Lucie Aubrac revient sur le devant de la scène, invitée aussi bien à la télévision, dans les diverses émissions sur la résistance, que dans de nombreux établissements scolaires, où elle donne son témoignage sur la résistance, souvent en compagnie de Raymond, qui devient ainsi le mari de Lucie, alors qu'à Rome et à New York, Lucie était la femme de Raymond, montrant ainsi sa grande popularité. Son engagement est aussi social et politique. Lorsqu'elle signe pour la célébration du 60e anniversaire du programme du Conseil national de la résistance du 15 mars 1944, je crois, avec plusieurs figures de la résistance, dont Maurice Kriegel-Valrimont, Germaine Tillion et Daniel Cordier, un appel aux jeunes générations à réagir devant la remise en cause du socle des conquêtes sociales de la libération, et à faire vivre et retransmettre l'héritage de la résistance et ses idéaux toujours actuels de démocratie économique, sociale et culturelle. Ou encore lorsqu'elle signe pendant le mouvement anti-CPE un appel des résistants appelant les Français à mettre un terme à la casse du pouvoir actuel. Avec son mari, elle signe la préface du livre collectif « L'autre campagne » faisant des propositions alternatives à celles des divers candidats à l'élection présidentielle de 2007. Elle a aussi été membre du comité de parrainage de la coordination française pour la décennie de la culture de la paix et de non-violence. Elle a donc montré par ses différentes actions l'intérêt de se battre pour ses valeurs, faisant d'elle une figure intemporelle et emblématique de la résistance.
Merci à vous Arnaud pour cette réponse très complète. Merci à vous tous d'avoir répondu à nos questions. Merci plus particulièrement à vous, la descendante de Lucie. Ce fut un honneur de vous avoir sur le plateau. C'est pas tous les jours qu'on a une descendante de résistance parmi nous.
Écoutez, de rien. Et même merci à vous, un grand merci à vous. Je le dis et je le répète. Comme vous le savez, Lucie a fait des appels à la radio. Aujourd'hui, on lui rend un bel hommage ici, une fois de plus à la radio. Et vraiment, je salue cette initiative parce que je pense que le devoir de mémoire, il est nécessaire encore à l'heure actuelle. Je pense que c'est important de se souvenir, de ne pas répéter les mêmes erreurs. Et c'est une fierté pour moi quand je me balade dans la rue et que je vois qu'il y a une rue à son nom, une école, des jeunes qui connaîtront son nom. Mais je pense que au-delà de ça, Lucie, même Raymond sont très connus. Et je pense qu'il y a des dizaines et des dizaines de résistants dont on ne connaît pas encore le parcours. Un vrai devoir au niveau des archives, je pense à vous Arnaud, et merci pour tous ces travaux que vous avez menés au sujet de Lucie et au sujet des autres. Et donc voilà, je pense qu'on apprendra encore de belles histoires, et merci à...
Il en reste beaucoup d'autres à découvrir, je le confirme.
Exactement.
C'est bien vrai.
C'est une très belle initiative que vous nous proposez là.
J'espère que vous, auditeurs, ça vous a plu. En tout cas, nous, au studio, nous avons pris énormément de plaisir à participer à la mémoire d'une figure de la résistance. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau portrait de résistant.
Raymond Aubrac. Au revoir. Joséphine Baker.
Marie-Madeleine
Fanny. Portrait de résistant, des podcasts écrits et réalisés par des élèves de terminale dans le cadre d'un cours d'EMC.
Gilbert Bosset.
Raymond Aubrac.
Joséphine Baker.
Marie-Madeleine Fanny.
Lucie Aubrac. Jeanne.